Et le journal est présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à toutes et à tous. Il envisageait de démissionner depuis l'ouverture d'une enquête judiciaire contre son épouse. Après un long silence, Pedro Sanchez annonce qu'il reste à la tête du gouvernement espagnol. Le Premier ministre nie tout calcul politique, mais son discours mérite d'être décrypté. Nous le ferons avec Frédéric Seyss. Avec Richard Place, nous évoquerons la démission réelle, celle-là du Premier ministre écossais. La coalition entre indépendantistes et écologistes n'a pas tenu. Lui reprochant des manquements répétés à la déontologie, Radio France licencie le journaliste politique Jean-François Akili. Il était suspendu depuis la révélation d'une supposée collaboration avec le président du RN, Jordan Bardella. Nous ferons le point avec Adrien Toffolet. Et puis la chronique Demain l'écho nous emmènera au Canada, dans la ville de Calgary. Confrontée à la sécheresse, les habitants se mobilisent pour récupérer l'eau de pluie. Nous verrons comment avec Justine Leblon. À l'issue de 5 jours de suspense, le Premier ministre espagnol annonce qu'il reste à la tête du gouvernement. Pedro Sanchez a accusé l'opposition de droite de mener contre lui une campagne de discrédit dont l'ouverture d'une enquête judiciaire contre son épouse serait une illustration. Et la semaine dernière, il se disait prêt à démissionner. Bonsoir Frédéric Seyss.
Bonsoir.
Ce matin, dans une allocution solennelle, Pedro Sanchez a donc dit qu'il poursuivrait sa tâche, ce qui lui a valu une réplique cinglante de la droite. Alberto Núñez Feijóo l'accuse de s'être moqué des Espagnols et conclut qu'il a perdu une occasion fantastique de s'en aller.
Oui, l'amertume de la droite espagnole est à la hauteur du coup de poker tenté par Pedro Sanchez. Rembobinons d'abord une lettre publiée la semaine dernière sur les réseaux sociaux. Il s'y dit victime d'une campagne de calomnie via les accusations portées à l'encontre de son épouse. Le Premier ministre annonce donc qu'il hésite à démissionner et se donne 5 jours pour réfléchir. Coup gagnant, ces 5 jours de silence lui permettent de dégonfler la pression politique et médiatique, de reprendre la main sur le calendrier, car pendant que le chef du gouvernement reste muet, les militants socialistes organisent des manifestations de soutien, voilà qui donne l'image d'un chef aimé par sa base. C'est d'ailleurs l'argument qu'il a mis en avant en fin de matinée pour annoncer qu'il restait en fonction.
Mon épouse et moi, nous savons que cette campagne de discrédit ne s'arrêtera pas. Nous en souffrons depuis 10 ans. C'est grave, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que nous sommes reconnaissants du plus profond de notre cœur pour les marques de soutien que nous avons reçues. Cette mobilisation a influé sur ma réflexion. J'ai décidé de continuer.
Alors, Pedro Sanchez est un habitué des coups de poker politiques. L'an dernier, il annonce à la surprise générale des élections anticipées. Les oppositions sont prises de vitesse. Lui limite la casse électorale. Résultat, à l'issue du scrutin, il est reconduit dans ses fonctions. Mais sa coalition est fragile. Alliance entre les socialistes, la gauche radicale et les indépendantistes catalans. Alors ce matin, dans son discours, Pedro Sanchez a solennellement appelé la société au sursaut face à la fange, je cite, c'est-à-dire aux campagnes de calomnie. L'enquête qui vise son épouse a démarré après un signalement effectué par un groupe proche de l'extrême droite. Si nous ne réagissons pas, cela condamne notre pays, insiste le Premier ministre espagnol. Une dramatisation qui lui permet de resserrer les rangs autour de lui à 2 semaines d'un scrutin crucial en Catalogne et à 6 semaines des élections européennes.
Frédéric Seyss, lui aussi s'est demandé s'il devait rester ou partir. Et finalement, après avoir passé 13 mois au pouvoir, le Premier ministre écossais Humza Yousaf a choisi de démissionner, refusant, dit-il, de renoncer à ses valeurs. Alors en réalité, c'est une crise politique interne qui l'empêche de poursuivre son mandat. Le leader du Scottish National Party, le parti nationaliste, ne dispose en effet que d'une majorité relative. Et la coalition avec les Verts a volé en éclats, Richard Place.
Les larmes aux yeux, il évoque sa famille et la brutalité de la vie politique. Humza Yousaf ne pensait pas en arriver là il y a encore quelques jours. La semaine dernière, il rompt l'accord avec les Verts, noué il y a 3 ans. Trop de divergences avec cet allié politique. Sur l'environnement, la question du genre également. Il veut gouverner différemment et pense que d'autres accords sont possibles. Pendant le week-end, il réalise que les Verts, mais aussi les conservateurs et les travaillistes ne lui feront aucun cadeau. Il renonce.
Je ne suis pas disposé à échanger mes valeurs et mes principes ou à conclure des accords avec qui que ce soit simplement pour conserver le pouvoir. Par conséquent, après avoir passé le week-end à réfléchir à ce qui est le mieux pour mon parti, le gouvernement et le pays que je dirige, j'ai conclu que la réparation de nos relations au-delà des divisions politiques ne peut se faire qu'avec quelqu'un d'autre à la barre.
Le Scottish National Party aurait pu diriger le pays avec le mouvement ALBA, indépendantiste lui aussi, prêt à intégrer le gouvernement. inespéré pour un si petit parti, avec une seule députée. Mais ces deux camps se détestent, de vieilles haines, d'anciens compagnons de route. La question de l'indépendantisme écossais a disparu du paysage politique depuis des mois. Ses plus grands défenseurs sont trop occupés entre affaires judiciaires et querelles permanentes.
Richard Place, correspondant de France Culture au Royaume-Uni. Après bientôt 7 mois de guerre entre Israël et le Hamas, on est dans l'attente de la réponse du mouvement islamiste palestinien à une proposition de trêve. Selon le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, l'offre est extrêmement généreuse de la part d'Israël, avec un cessez-le-feu de 40 jours et la libération de milliers de prisonniers palestiniens en échange de la libération des otages retenus depuis le 7 octobre. À Paris, des militants pro-palestiniens qui avaient installé des tentes à la Sorbonne ont été délogés par la police des locaux historiques du quartier latin. L'évacuation de la Sorbonne est qualifiée de brutale par des manifestants, mais selon la préfecture de police, elle s'est faite en quelques minutes et dans le calme. L'ONU demande l'abrogation d'une nouvelle loi adoptée samedi par le Parlement irakien. Cette loi criminalise notamment les relations homosexuelles et les transitions de genre qui sont passibles de 15 ans de prison. Dans une première mouture, le texte prévoyait même la peine de mort. Il a ensuite été révisé, Valérie Crova.
15 ans de prison, c'est ce que prévoit cette loi censée protéger la société irakienne de la dépravation morale et des appels à l'homosexualité qui ont envahi le monde, selon les termes du texte. Sont désormais proscrites les relations homosexuelles et toute organisation qui en ferait la promotion, ainsi que tout comportement jugé efféminé pour un homme passible de 3 ans de prison. La nouvelle loi criminalise également le changement de sexe biologique et les pratiques échangistes. Harcelés au quotidien quand ils ne sont pas enlevés, torturés ou violés par des groupes armés, les membres de la communauté LGBT+ sont la cible de discrimination dans ce pays conservateur qu'est l'Irak. L'année dernière, des drapeaux arc-en-ciel avaient été brûlés lors de manifestations organisées par les factions musulmanes chiites. Outre l'Union européenne et l'ONU, le département d'État américain a fait part de son inquiétude face à un texte qui, selon son porte-parole, sape les efforts de réformes économiques et politiques du gouvernement irakien, et ce, 2 semaines après la visite du Premier ministre al-Soudani à Washington, une visite au cours de laquelle il s'est bien gardé d'évoquer le contenu de cette loi.
Valérie Crova. Aux États-Unis, la campagne de Joe Biden manque sérieusement d'élan et le président démocrate sait que même si son adversaire Donald Trump n'est pas beaucoup plus jeune que lui, son âge est un handicap. Le président américain vient donc de décider de ne plus marcher seul vers son hélicoptère quand il arrive ou quitte le bureau ovale afin de masquer sa démarche d'hommager. Le journaliste politique Jean-François Akili a été licencié par Radio France. Licencié pour faute grave, pour manquement répété aux obligations déontologiques relatives aux collaborations extérieures. Il était suspendu et donc absent de l'antenne de France Info depuis le 14 mars, après l'apparition d'un article du Monde associant son nom à un projet de livre du président du Rassemblement National, Jordan Bardella. Bonsoir Adrien Taufollet.
Bonsoir.
Sur quels éléments se base la direction de Radio France pour prendre une telle décision à l'encontre de Jean-François Akili?
D'abord sur les entretiens entre Jean-François Akili et la direction de France Info, lors desquels le journaliste a notamment reconnu avoir partagé avec Jordan Bardella des avis et des retours sur le manuscrit du candidat d'extrême droite. Ensuite, sur certains éléments dévoilés par Libération et Télérama il y a une dizaine de jours, comme des cours de prise de parole face aux médias dispensés par Jean-François Akili, là aussi en toute discrétion pour plusieurs grands dirigeants, le patron de la SNCF et celui du groupe Casino par exemple. Pour la direction, le dossier Akili est lourd et sa décision de le licencier mûrement réfléchie, car les collaborations extérieures à Radio France sont de plus en plus encadrées. Qu'elles soient rémunérées ou non, elles doivent faire l'objet d'une information à la hiérarchie et d'une autorisation express et préalable, ce dont le journaliste s'est passé à plusieurs reprises.
Et que disent Jean-François Akili et la direction de France Info?
Aucun commentaire sur le licenciement aujourd'hui, après avoir argué que, dans un premier temps, que cela relevait de sa vie professionnelle personnelle, le journaliste a depuis répété qu'il n'avait enfreint aucune règle professionnelle ou déontologique et qu'il n'est lié par aucun contrat d'édition. Il réfute aussi une quelconque connivence. Selon lui, et Jordan Bardella, qui avait pris sa défense par ailleurs. Cela faisait partie des échanges qu'un journaliste politique peut avoir avec des personnalités politiques. La direction de France Info, quant à elle, défend une position d'irréprochabilité évidente, compte tenu du contexte de la campagne des européennes et du projet de réforme de l'audiovisuel qui sera discuté à l'Assemblée nationale à la fin du mois de mai. Cela n'empêche pas déjà les accusations de chasse aux sorcières, c'est ce qu'affirme sur X le président des sénateurs LR, Bruno Retailleau, qui doute que le même sort lui aurait été réservé s'il avait lu le projet d'écrire un livre d'entretien avec Jean-Luc Mélenchon, ou encore Sébastien Chenu, vice-président du Rassemblement National, qui en fait un enjeu de liberté d'expression.
Merci Adrien Taufollet. Le gouvernement compte toujours faire repasser le déficit public sous 3% du produit intérieur brut en 2027. C'est le message qu'a voulu faire passer le ministre des Finances, Bruno Le Maire, à l'Assemblée lors du débat d'orientation des finances publiques. Il a notamment souligné que les agences Fitch et Moody's n'avaient pas abaissé la notation de la France. Mais Bruno Le Maire a passé une après-midi difficile. Bonsoir Stéphane Robert.
Oui, bonsoir Aurélie.
Le problème, c'est que le gouvernement ne convainc personne.
Bruno Le Maire a justifié la dégradation des comptes publics par la survenue de deux crises majeures ces dernières années, la crise Covid, puis la guerre en Ukraine qui a généré une forte inflation, et c'est la dépense publique qui a permis d'y faire face, a dit le ministre. Mais désormais c'est terminé, il faut redresser les comptes.
Nous sommes la majorité qui a fait repasser la France sous les 3% de déficit public en 2018. Nous devons être la majorité qui fera repasser la France sous les 3% de déficit public en 2027.
Et pour ça, le ministre des Comptes publics, Thomas Cazenave, a rappelé le plan d'économie décidé, moins 20 milliards d'euros dans les dépenses en 2024 et la même chose en 2025. Par ailleurs, selon lui, les perspectives économiques sont encourageantes pour l'année prochaine.
Nous pourrons compter sur une croissance solide, prévue à 1,4%.
Ces prévisions sont beaucoup trop optimistes, a rétorqué la gauche. Elle a par conséquent, à travers les voix de l'insoumise Aurélie Trouvé et du socialiste Boris Vallaud, proposé une autre solution.
Les gens savent comment aujourd'hui il faudrait faire. Taxer les riches, taxer les multinationales, taxer la finance.
Des recettes nouvelles au nom de la justice fiscale pour celles et ceux qui peuvent faire des efforts supplémentaires. Taxe the rich, monsieur le ministre.
À droite, la députée Les Républicains de l'Orne, Véronique Louwagie, a elle aussi jugé impossible le retour de la dette publique à 3% du produit intérieur brut en 2027. Car selon elle, les gouvernements successifs se sont montrés jusqu'ici incapables de contenir les dépenses.
Votre bilan, messieurs les ministres, c'est 1 000 milliards d'euros de dette en plus depuis 2017.
Le député du Rassemblement national, Jean-Philippe Tanguy, n'a pas dit autre chose, raison pour laquelle, selon lui, il faut censurer le gouvernement.
Nous sommes toutes oppositions confondues, majoritaires et capables de faire tomber ce gouvernement. Aussi, le groupe Rassemblement national demande qu'un projet de loi de finances rectificative soit soumis au Parlement d'ici 30 jours. Si au terme de ces 30 jours, le gouvernement persiste à ignorer le Parlement, le groupe Rassemblement National déposera alors une motion de censure.
Mais une motion de censure déposée par le Rassemblement National a peu de chances d'être adoptée. Ce serait beaucoup plus risqué si la droite en déposait une, ce qui ne semble pas à l'ordre du jour, en tout cas avant les élections européennes du 9 juin prochain.
Stéphane Robert, l'État a décidé de sauver Atos, ou en tout cas une partie des activités du géant informatique français. Il a annoncé hier l'envoi d'une lettre d'intention concernant l'acquisition de ses activités stratégiques. Le groupe, qui est en pleine tourmente financière, s'en est réjoui ce matin et a annoncé par la même occasion avoir besoin de 500 millions d'euros de liquidités supplémentaires d'ici 2025. Du côté de Bercy, on se refuse à parler de nationalisation et on espère attirer des acteurs privés. Bonsoir Valentin Grille.
Bonsoir.
La procédure est loin d'être terminée, mais cette opération serait une nouvelle marque forte du retour de l'État actionnaire.
Oui, même si pour le moment le courrier de l'État est non contraignant et ne peut aboutir qu'à une offre de rachat non contraignante d'ici le mois de juin. Bull, la filiale concernée, a déjà été nationalisée entre 83 et 94. Elle devrait cette fois être reprise par l'Agence des participations de l'État, son bras armé rattaché à Bercy depuis 2011. Au début du mois, l'État avait déjà accordé un prêt de 50 millions en l'échange d'une action de préférence, une sorte de super-action garantissant sa participation au capital d'Atos. Cette intervention était attendue depuis longtemps parce que Bull opère sur un segment sensible. Ses supercalculateurs servent aux avions de combat, aux chars de l'armée, ainsi qu'à la dissuasion nucléaire. Ils seront aussi cruciaux dans le domaine quantique dans le futur. Atos est donc un groupe technologique, mais aussi de défense, comme le rappelle Alexandre Papa-Emmanuel, enseignant à Sciences Po.
Aujourd'hui, on voit une recomposition de ce que pouvait être avant un arsenal, hein, avec des chantiers qui font des bateaux, des chaînes de montage qui font des avions. Et désormais, faire des lignes de code, c'est aussi important et stratégique. Faire des infrastructures qui feront que ces lignes de code puissent exprimer toute leur puissance, c'est devenu un atout compétitif.
Or, dans le domaine, l'État monte en puissance avec la création du commandement de la cybersécurité en 2017 et la récente agence dédiée à l'intelligence artificielle dans le domaine militaire. Mais il ne veut pas piloter Atos seul. Il compte en déléguer la gestion, comme il le fait déjà avec le sous-marinier Naval Group, par exemple, laissé à Thales. Problème, aucun industriel n'a pour l'instant déposé d'offre ferme. Airbus claque quand même la porte après de longues négociations. Alors que tous semblaient attendre la liquidation d'Atos, l'État actionnaire tente désormais de jouer un rôle de garant.
18h15, la chronique Demain à l'écho nous emmène ce lundi au Canada. Une grande partie du pays est confrontée depuis plus d'un an à une sécheresse exceptionnelle. Dans l'ouest canadien, la région des prairies est habituée à avoir un climat sec et la province de l'Alberta distribue des permis d'utilisation d'eau depuis une vingtaine d'années. Mais avec la baisse du manteau neigeux et l'accélération de la fonte des glaciers, la région devient de plus en plus aride. Parmi les solutions mises en place par la ville de Calgary, les tonneaux de pluie que les habitants sont incités à installer dans leur jardin, Justine Leblon.
Voici donc mon système de récupération d'eau. Vous avez un tonneau à l'avant seul, et là, trois connectés ici.
Derrière sa maison, dans son jardin, Crystal McKenzie récupère l'eau de pluie au sein de trois tonneaux installés à côté de son potager, attachés les uns aux autres pour éviter les débordements et reliés au toit par un tuyau gouttière. Cette eau de pluie récupérée lui permet d'arroser ses plantes sans utiliser celle potable du robinet.
Je peux remplir et vider mes tonneaux deux ou trois fois par saison. J'ai créé un jardin résistant à la sécheresse, donc je n'ai pas besoin de l'arroser très souvent, même lorsque la pluie s'arrête. Mais je peux généralement passer une bonne partie de la saison sèche l'été grâce à l'eau de la pluie. Je m'en sers pour mes plantes d'intérieur et d'extérieur. L'avantage, c'est que je n'utilise pas d'eau potable et que je ne paye pas trop cher ma facture d'eau, tout en ayant quand même un jardin fleuri.
Ces tonneaux de pluie d'une capacité de 170 litres sont proposés par l'association Green Calgary, dont Crystal fait partie, et dont Lex van der Raat est le directeur.
En général, vous pouvez compenser environ 900 gallons d'eau par an, c'est-à-dire environ 3700 et quelques litres par an avec un tonneau de récupération d'eau de pluie.
Chaque année, l'organisme vend entre 1000 et 1500 tonneaux aux habitants de Calgary.
Notre programme de tonneaux de pluie commence chaque année vers le mois d'avril. Nous commençons à les vendre le 1er avril jusqu'à la fin du mois de juin.
La région de Calgary souffre particulièrement de la sécheresse et encore plus ces 5 dernières années, explique Lex van der Raat.
En plus d'être un endroit très sec en général, car la plupart de nos précipitations sont vraiment, vraiment concentrées sur quelques mois d'été, et c'est à peu près tout, aujourd'hui nous prévoyons des niveaux d'eau plus bas à cause des chutes de neige survenues plus tôt dans l'année et une diminution des précipitations. Ces facteurs se combinent pour en faire non seulement une zone sèche, mais aussi une saison sèche. Les gens essayent donc de s'y préparer en cherchant des moyens d'utiliser de l'eau, même s'il y a des restrictions d'arrosage. Une bonne astuce, c'est de planter des plantes sauvages. La plupart des plantes originaires du sud de l'Alberta résistent déjà à la sécheresse. Il n'y a pas besoin de les arroser souvent et elles peuvent survivre plus longtemps. Une autre idée, c'est le jardin de pluie, une manière d'aménager son jardin pour qu'il recueille naturellement de l'eau de pluie grâce à la forme qu'on lui donne.
Pendant l'été, les Calgariens utilisent en moyenne 40% d'eau en plus, notamment à cause de l'arrosage des plantes.
Je suis Nicole Newton, la responsable des adaptations environnementales au sein de la ville de Calgary.
À la mairie, on encourage les habitants à acquérir plusieurs réflexes pour limiter leur consommation d'eau, surtout que cet été s'annonce encore très sec.
Nous surveillons un certain nombre d'indicateurs et de conditions dans le bassin, et il y a quelques signes d'amélioration, mais nous n'avons certainement pas reçu les précipitations dont nous avons besoin pour sortir de la sécheresse. Lorsque la ville a publié son premier plan d'utilisation rationnelle de l'eau en 2005, le lancement du programme des tonneaux de pluie a été une initiative majeure et au cours des 20 dernières années, les Calgariens les ont adoptés. Mais on constate une grosse augmentation des demandes avec les conditions de sécheresse émergentes de cette année.
À Calgary, désormais, environ un habitant sur trois possède un tonneau pour récupérer et utiliser l'eau de pluie.
Justine Leblon pour Demain l'écho, une chronique que vous pouvez lire ou écouter sur le site de France Culture et l'appli Radio France. Le temps sera plutôt gris demain avec de faibles pluies. Sur une petite moitié est, des orages éclateront l'après-midi. Il y aura parfois de la grêle. Les températures minimales se radoucissent. Elles iront de 8 à 16 degrés du nord-est à la Méditerranée. L'après-midi, il fera de 13 degrés en Bretagne à 26 en pleine d'Alsace. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.